Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Soli Porta.
Stella Maris. Une émission mariale proposée par le frère Clément Bonnou, franciscain de l'Immaculée, pour aller à la rencontre de Marie sur les chemins de l'espérance.
Bienvenue à vous, chers amis, auditrices, auditeurs, sur cette émission Stella Maris sur Radio Présence. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série de chroniques intitulée « Vivre les mystères de la Passion avec Marie ». Nous allons méditer avec elle sur les mystères douloureux du rosaire, ces moments où Jésus a affronté l'extrême douleur par amour pour nous. Notre première étape nous conduit à Gethsémani, ce jardin où Jésus a connu l'angoisse la plus profonde. Il sait que son heure est venue. Il pleure, il tremble. Son cœur est écrasé par une douleur intérieure que nul ne peut comprendre. Mais dans cette nuit de souffrance, quelqu'un veille. Quelqu'un qui, en silence, vit cette agonie avec lui. Marie, sa mère. Comment vivre avec Marie nos propres nuits de Gethsémani? Comment, à son école, apprendre l'abandon total à Dieu? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Au cœur de cette chronique, nous aurons la voix de la sœur Emmanuelle Maillard, de la Communauté des Béatitudes, que j'ai personnellement eu l'opportunité de rencontrer par deux fois en accompagnant des groupes en pèlerinage, en Croatie, à Medjugorje. Elle nous parlera du sens de la souffrance dans la vie du chrétien et la compagnie de Marie. Merci à Franck Guéret pour sa collaboration technique.
Près de toi, Marie, nous venons prier. Le Seigneur est avec toi. Comme toi, Marie, nous voulons chanter. Seigneur est notre joie. Dans la cité où Dieu fait grâce, que notre foi soit réveillée. Tu nous invites à des audaces, car l'impossible, Dieu le fait. Près de toi, Marie, c'est la soif qui nous habite, que l'eau jaillisse du rocher. Voici la source qui fait vivre et qui pourra nous purifier. Près de toi, Marie, nous venons prier. Le Seigneur est avec toi. Qui te supplie de les guérir. Tu les nourris de vie pascale, leur espérance refleurit. Près de toi, Marie, nous venons prier. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est
la grotte brille des lumières que tes enfants ont allumées. C'est un message à notre terre, Dieu nous appelle à sa clarté.
Près de toi, Marie, nous venons prier, le Seigneur est avec toi. Comme toi, Marie, nous voulons chanter, le Seigneur est notre joie.
Eh bien, chers frères et sœurs, imaginez cette nuit. Le vent souffle sur les oliviers. L'obscurité a enveloppé Jérusalem. Jésus est seul. Ses disciples fatigués se sont endormis. Mais son cœur est en agonie. Il tremble. Il ressent une angoisse inexprimable. Il sait ce qui l'attend. Chaque seconde qui passe le rapproche du supplice. Il est écrasé par l'angoisse et la peur. Et pourtant, au loin, quelqu'un veille. Quelqu'un qui n'est pas physiquement là, mais qui vit cette épreuve avec lui en silence dans une autre nuit douloureuse. Il s'agit de Marie. Sa mère. Son cœur bat à l'unisson du sien. Elle ressent ce que son fils endure, car depuis l'Annonciation, elle a dit oui, oui à ce mystère de douleur et de salut. Que nous disent les Écritures, surtout l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 22, versets 39 à 46. Écoutons. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez, pour ne pas entrer en tentation ». Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Eh bien, Marie vit l'agonie intérieurement avec Jésus. Pourquoi Jésus est-il en agonie? Ce n'est pas seulement la peur de la souffrance physique. Il porte déjà le poids des péchés du monde. Il se sent abandonné par les siens, même ses disciples dorment. Marie est là, discrètement. Elle n'est pas là physiquement, bien sûr, mais elle ressent tout. Son âme maternelle est liée à celle de Jésus. Elle sait que l'heure de son fils est venue et que le glaive prophétisé par le vieillard Siméon dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 2, verset 35, est en train de transpercer. Ce glaive est en train de transpercer, véritablement, son cœur. Le pape Jean-Paul II, un pape très marial, disait, je cite, « Dans la nuit de Gethsémani, Jésus a été fortifié par la prière. Il savait que, dans une autre nuit, Marie veillait aussi. en unissant son cœur au sien. Une autre figure de sainteté de l'Église, un cœur marial aussi, Saint Jean-Eudes, disait « Marie a tant aimé son fils qu'elle a souffert dans son âme toutes les douleurs qu'il a souffertes dans son corps. » Eh bien, nous avons, nous aussi, tous, des nuits d'angoisse, des moments de solitude et de doute. Quand nous vivons des épreuves incompréhensibles, nous pouvons nous unir à Jésus, à Gethsémani, et nous souvenir que Marie veille sur nous. Sommes-nous prêts à prier dans l'angoisse, à dire fiat avec Marie, même dans nos nuits, dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de croix, dans nos moments parfois de souffrance? Eh bien, c'est cela. Marie nous accompagne. Nous allons arrêter ici un moment pour recevoir la sœur Emmanuelle Maillard.
Mes chers frères et sœurs, je vous salue d'abord de tout mon cœur et je voudrais vous exprimer ma joie de participer à ces semaines et ces préparations de carême pour aller vers Pâques, vers l'explosion de la résurrection du Christ, de la vie et de la vie qui ne passe pas, la vie qui ne cesse pas, qui ne nous trahit pas, qui ne nous lâche pas, la vraie vie en Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de cette souffrance qui nous atteint, en particulier en ces temps, pas seulement par la pandémie, mais aussi il y a la peur, il y a l'instabilité, on perd son travail quelquefois, on perd le sens du futur, on ne sait pas trop comment ça va tout tourner, tout ça. Il y a la maladie, il y a le risque de la maladie, enfin il y a beaucoup d'épreuves, la confusion aussi, même au sein de l'Église d'une certaine manière, dans le monde en général, on ne sait plus à qui se fier. Et donc il y a des épreuves qui sont réelles et qui sont en quelque sorte mondiales et auxquelles on ne peut pas trop échapper. Donc l'heure est difficile. Et maintenant, il ne s'agit pas de bricoler avec la vie. On n'a qu'une seule vie et c'est important de la vivre bien, de la vivre pour faire une bonne sortie, hein, c'est-à-dire vers l'éternité, faire un bon chemin sur cette terre pour aller vers l'éternité de joie et de paix que le Seigneur a préparé pour nous dans le ciel. Vous savez, c'est le curé d'Ars qui disait « Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. » Alors, si on a mal commencé ou pas très bien commencé, ou moyennement commencé, on va essayer de bien finir. Et pour cela, il y a une réalité que la Vierge veut prendre un petit peu à charge pour nous, c'est notre souffrance. Que ce soit nos maladies, nos cœurs brisés, nos angoisses, nos peines de cœur, nos difficultés de tout genre, de toutes sortes. Tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous écrase peut-être. Et Marie, comme mère, avec son infinie tendresse maternelle, veut nous aider. Alors, je voudrais vous raconter d'abord un épisode qui m'a beaucoup frappée, qui appartient aux révélations de Marthe Robin, qui, vous le savez, vivait la Passion du Christ toutes les semaines pendant 50 ans et qui donc connaît le thème de la souffrance et comment le Seigneur lui a parlé au moment de sa Passion, parce qu'elle revit la Passion du Christ, elle voit le Seigneur, elle voit la Vierge, elle voit les apôtres, elle voit ceux qui ont torturé le Christ, elle voit la crucifixion, elle voit tout, elle le vit aussi, elle le vivait dans son cœur. Et elle a rapporté cette scène très très touchante. C'est la Vierge Marie qui s'approche de Jésus et qui sait que Jésus va s'en aller. Jésus vient vers elle et il lui fait part de tout ce qu'il a, de tout ce qu'elle aura à souffrir durant sa passion jusqu'à sa résurrection. Et là, la Vierge, voyant tout ce que Jésus lui annonce, ses souffrances, elles sont atroces, c'est la torture de la passion, de la crucifixion, elle demande à Jésus, « Permets-moi de mourir avec toi au pied de la croix. » Et Jésus ne lui a pas concédé cette faveur. « Non, lui a dit Jésus, tu ne vas pas mourir avec moi, parce que j'ai besoin de toi, qu'après ma mort et ma résurrection, j'aurai besoin de ta présence au milieu des apôtres pour les aider, pour être avec eux. » Voilà, il avait besoin de la présence maternelle de Jésus auprès des disciples, auprès des apôtres, auprès des premières communautés chrétiennes pour être là comme témoin de sa présence, comme, pas par un souvenir parce que c'est sa maman, non mais comme celle qui a été la parfaite disciple et qui sait gérer toutes les problèmes de ce monde avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit Saint. Donc ça, elle devait être témoin et en même temps maternellement présente pour consoler, pour encourager, pour empêcher les apôtres devant la difficulté et les attaques et les persécutions, il faut bien le dire, devant tout ce qu'ils auraient à affronter. Comment se fait-il que dans le monde, on trouve des personnes qui ont beaucoup souffert? Je pense par exemple à une maman qui aurait perdu un enfant de 2-3 ans, un petit ou un plus grand. C'est une épreuve écrasante pour le cœur d'une mère. Et voilà, elle a perdu son enfant. Comment se fait-il qu'elle arrive à surmonter et elle arrive à rester dans la paix et même à aider les autres et même à consoler les autres? Comment se fait-il que son visage irradie de la lumière et qu'au lieu d'être écrasée, au lieu d'être vraiment accablée par cette épreuve terrible, comment se fait-il qu'elle a pu ressurgir et donner de l'amour aux autres, être en quelque sorte un ange de compassion pour les autres? Comment se fait-il qu'elle en arrive là? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour en arriver là? Et je compare avec une autre maman qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas. Cette maman a aussi perdu un enfant. La même souffrance, la même épreuve, la même horrible épreuve pour une maman. Et cette personne, peut-être, va devenir dépressive, agressive, méchante peut-être. Vous savez, dans la souffrance, comme dit Marie, la souffrance sans Jésus mène au désespoir. Elle sait ce dont elle parle puisqu'elle nous voit, elle voit le monde d'aujourd'hui. Combien de désespoir, combien d'angoisse, combien de réactions d'agressivité, de haine, de violence, d'autodestruction à cause de la souffrance, voyez? Eh bien, je vais vous donner la réponse à ma question, parce que vous ne pouvez pas me parler, hein, je suis toute seule devant l'écran. Eh bien, la réponse est simple. La réponse, elle est là. La réponse, elle est dans Marie. Marie nous a dit, chers enfants, votre souffrance est aussi la mienne. Et c'est parce que notre souffrance est la sienne qu'elle peut nous aider. Ce n'est pas quelqu'un qui a été parachuté du ciel comme ça, qui est indifférente aux souffrances des hommes. Et pourquoi a-t-elle eu la grâce, elle, de souffrir? Elle a souffert comme personne au monde. Elle a souffert, hein. Voyez, là, je vous dis pas, je ne veux pas vous énumérer toutes les souffrances de Marie, même bien avant qu'elle soit au pied de la croix et qu'elle vive aussi les épreuves de la première Église. Elle a eu à enfanter un fils dans une petite grotte sordide à l'extérieur de Bethléem. Il faisait un froid de canard, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait même pas un endroit intime, voyez. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien, c'était même pas un lit, même pas une couverture, rien. Vous voyez, elle a enfanté et elle a dû vivre ses premiers jours à Bethléem comme ça, voyez. Bon, ensuite il y a eu la fuite en Égypte. Imaginez 4 ans dans un pays étranger à ne pas pouvoir avoir de travail puisque Joseph ne pouvait pas s'employer quelque part, il fallait fuir. Tous les 2 jours, changer de place pour fuir les espions d'Hérode qui avaient réalisé qu'il avait raté son coup avec le massacre des innocents. Alors, puis la chaleur, ils n'avaient qu'un âne comme richesse et leurs propres habits, c'est tout. Il fallait vivre de ça, de la providence, peut-être de la charité des uns et des autres, vous voyez. Pendant 4 ans, vous voyez, des réfugiés politiques qui n'avaient rien, aucune loi pour les protéger, vous voyez. Puis rentrés après, ils ont vécu cette vie cachée. Méprisé, on l'a bien vu aussi dans l'Évangile, mais oui, c'est lui le fils du charpentier, bah, et ses sœurs sont parmi nous, bon, et ça ne me tient rien du tout, quoi, voilà.
Oui, vous venez d'écouter la sœur Emmanuelle de la communauté des Béatitudes et nous la remercions. Maintenant, comment vivre l'abandon avec Marie? Oui, une question essentielle. Comment faire confiance dans l'épreuve? Dire « Seigneur, je m'abandonne à toi » est facile dans les bons jours. Mais que se passe-t-il quand nous sommes dans notre propre Gethsémani. Quand nous vivons un deuil, une trahison, une maladie, quand nous avons peur de ce qui nous attend, Marie nous enseigne trois attitudes pour tenir ferme dans ces moments d'épreuve. Oui, veillez et priez. La force de la prière dans l'épreuve. Oui, Marie nous invite à veiller et à prier. Relisons un peu l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 26. Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Matthieu 26, versets 37 à 41. Oui, Jésus reproche à ses disciples de dormir. Et nous aussi, parfois, nous laissons notre foi s'endormir dans les épreuves. Marie, elle veille. Elle ne comprend pas tout, mais elle prie. Quand nous souffrons, avons-nous le réflexe de prier, même sans ressentir de consolation immédiate? Deuxième attitude de Marie, dire fiat, même dans la nuit. Un acte de confiance radical. Qu'il me soit fait selon ta parole, disait Marie. Le oui de Marie à l'Annonciation trouve son écho ici. À Gethsémani, Jésus dit son propre fiat au Père, que ta volonté soit faite. Osons dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Troisième attitude, enfin, c'est offrir nos souffrances avec Marie. Complétons dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ, disait saint Paul dans son épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Saint Maximilien Marie Kolbe disait, « Les souffrances offertes avec amour deviennent des semences de grâce. » Les souffrances offertes avec amour deviennent des semences de grâce. Quand nous souffrons, nous pouvons offrir nos douleurs avec Marie comme une prière silencieuse. Pourquoi ne pas prier le chapelet de l'abandon? L'abandon dans les mains de Dieu. Eh bien, je voudrais finir par cette prière qui est comme un acte d'abandon avec Marie. De l'abandon, toi qui as suivi ton fils dans la nuit de Gethsémani, apprends-nous à dire oui, même quand tout semble obscur. Prends nos peurs, nos angoisses et nos doutes et conduis-nous vers ton fils. Je t'offre mes souffrances, mes incompréhensions, mes combats intérieurs. Je me mets sous ta protection, car tu es la mère de la confiance. Aide-moi à faire la volonté du Père comme Jésus à Gethsémani. Amen.